Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 550, un chiffre rond. Ça tombe bien, c'est le troisième mercredi du mois, donc... Champ libre spécial avec invité, invité mensuel, Carole.
Bonsoir.
Avec deux micros aujourd'hui. Jo.
Bonsoir, avec un seul micro. Moi.
Avec un seul micro.
Et, bonsoir.
Et une chronique cinéma, Carole,
oui.
Avec deux chroniques.
Deux chroniques.
Voilà. On va commencer ce Champ libre numéro 550, presque printanier, avec un premier titre d'un album nouveau d'un groupe qui s'appelle Off Montréal. L'album s'appelle Oriette Gloom, ce qui signifie ténèbres rayonnantes, hein, ou quelque chose comme ça. Ténèbres rayonnantes tout simplement parce que Kevin Barnes, le leader de Off Montréal, quelqu'un d'un petit peu frappadingue et excentrique. Hein. J'ai eu l'occasion de le croiser au bar d'une salle de spectacle à Fézin. Il est bizarre sur scène, mais il est aussi bizarre dans la vie. En tout cas, Kevin Barnes, comme plein d'autres, s'est fait plaquer par Sanana. Il y en a d'autres, c'est leur mec qui les ont plaqués. Hein. Je pensais à Björk. Kevin Barnes s'est fait plaquer par Nina, sa compagne. Et du coup, il a enregistré un album encore plus azimuté que d'habitude, puisqu'il estime que le meilleur moyen d'exorciser les choses... C'est de faire des chansons gays. Donc voilà, Oriette Gloom est un album gay qui lorgne du côté de la musique des années 70 avec un côté un peu plus disco électro d'aujourd'hui, électrique.
Gay, joyeux ou gay
Énergique. Mais j'ai pas dit gay, j'ai dit gay, j'ai haï. Off Montréal, Oriette Gloom, le titre Apollyon of Blue Room, tu peux traduire ça, je pense. Apollon de Chambre Bleue.
De la Chambre Bleue, tout à
voilà,
fait.
Voilà, je suppose que ça signifie Off Montréal.
dreams are corrosive, nightmares are vampires too. My thoughts are voltaic, I'm such a doubter, huh?
L'Apollon de la Chambre Bleue, je suppose que c'est Kevin Barnes himself, leader de Off Montréal. L'album s'appelle Orient Gloom et c'était le premier titre de cette émission. C'est dansant.
Ah oui, très dansant. Je pense que ça pourrait plaire à Christian, ce genre de, disque avec une rythmique très, très répétitive.
À Christian,
très...
le punk, tu veux dire ? Ah non, c'est pas.
C'est vrai ? Trop... Je me trompe alors.
C'est trop paillette.
C'est trop paillette.
Ouais, très disco, hein, parfois, Off Montréal sur scène. Tu l'as écouté, Cho ?
J'ai écouté une première partie, je n'ai pas tout écouté, mais c'est, oui, c'est à l'avenant hein, de tout ce qui vient ensuite. Donc c'est assez péchu, effectivement.
Ça,
donc,
ça part dans tous les sens. Ouais. Et moi, j'ai choisi des titres de Off Montréal aujourd'hui pour démarrer et clore l'émission, parce que je trouve que ça colle bien en plus avec... ce dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Exactement, c'est une excellente transition, effectivement.
Vois, tu vas nous parler d'un film qui
Même pas un film, c'est un événement, je dirais. C'est un événement de ce début d'année 2015, et en l'occurrence, la première adaptation d'un Thomas Pynchon au cinéma. Inherent Vice, Vice caché en français, du génie Paul Thomas Anderson. Donc voilà, c'est la première adaptation d'un Pynchon au cinéma. Tous ces romans brillants hein, ont été jugés inadaptables pour le grand écran, mais P.T. Anderson n'a pas eu peur, a relevé le défi. Il a en l'occurrence signé un scénario très fidèle dans son ensemble, très fidèle aux personnages, aux dialogues. Mais moi, j'ai trouvé surtout à l'univers complètement halluciné et psychédélique de ce Los Angeles des années 70, mais qui marque, cela dit, hein, une fin d'époque, qui est la fin d'époque du flower power, du mouvement hippie, notamment marqué et amorcé par les massacres du Clan Manson qui sont mentionnés à plusieurs reprises, dans le roman d'ailleurs, et dans le film. Donc bon, l'intrigue est difficilement résumable, hein. Doc Sportello, qui est un détective privé de son état et junkie de surcroît, se retrouve...
Junkie, il fume.
Oui, il fume, oui. Oui, entre autres. Bref. Et donc, il se retrouve embrinqué dans une affaire de disparition impliquant son ex et un puissant homme d'affaires. Donc, tout ça est un joyeux fourre-tout conduisant une confusion de prime abord pas très convaincante hein, au début. Puis, petit à petit, devenant intrigante pour enfin devenir jouissive, véritable feu d'artifice bariolé, baroque, d'une société qui est en pleine décrépitude et nageant dans le grand n'importe quoi. Donc je vous laisse découvrir l'intrigue, ça vaut le détour. Donc bien sûr, bien évidemment, vous l'aurez compris, d'aucuns jugeront le film incompréhensible. Moi, je vois le film plutôt comme un volcan en constante éruption, un vrai délirium avec une galerie de personnages improbables, superbement écrits, des ambiances hallucinogènes, composées d'odeurs et d'informations balancées dans le désordre, mais vraiment qui nous donne envie de nous abandonner à ce trip cinématographique et littéraire. Donc, petite parenthèse pour les premiers films quand même de Paul Thomas Anderson, qui laissait poindre une admiration sans bornes et un héritage non voilé au film de Robert Altman et Scorsese, hein, avec les enchevêtrements de personnages, plans séquences à gogo. Son cinéma avait quand même pris une nouvelle tournure avec There Will Be Blood, avec un style plus épique, plus gracieux et plus puissant tout simplement. Et Inherent Vice, moi je trouve que c'est un nouvel épisode de cette mise en image anthropique qui a composé l'histoire des États-Unis. Donc après le porno dans Boogie Night, le pétrole dans There Will Be Blood, la scientologie dans The Master, là on voit quand même une société en proie à l'évanouissement des idéaux pacifiques et la mort inéluctable du psychédélisme dans un foutoir innommable. Et Anderson compose, pour moi, hein, enfin, on reste bouche bée devant cette mosaïque visuelle, sidérante et surtout drôlatique. On rit beaucoup, beaucoup à ce film. Et donc tous ces personnages bourreaux victimes, et à travers une mise en scène magistrale et d'une audace incroyable, composent une ronde pathétique. Alors, bien sûr, le grandiose Joaquin Phoenix en tête et Josh Brolin, deux êtres en totale contradiction, mais qui se complètent tels des comparses improbables dans un pays privé de ses repères et de quelconque valeur. Donc, vraiment grand roman, grand film. Si vous pouvez faire les deux, hein, lire le bouquin et voir le film, ce serait parfait. Et surtout, ça répondrait aux critiques qui disent que le film est incompréhensible, hein, parce que c'est vraiment adapté purement simplement du roman.
Alors, Inherent Vice... Vice caché.
Vice caché, traduction française.
Le, ouais. Le film. Les auditeurs de Champ Libre, depuis de nombreuses années, savent que derrière le micro, il y a un fan de Pynchon puissance 1000.
Oui, j'avais compris aussi.
Qui est le premier à dire. Je pense que c'est le plus grand auteur américain depuis longtemps. Ceci dit, j'en suis à la deuxième lecture hein, quand même du roman, je l'avais lu, il est sorti en 2008.
2008, exactement.
Je suis en train de le relire et je me dis que lire un bouquin de Pynchon, c'est un voyage.
Ouais, c'est un voyage.
Voilà. Dans lequel, tu as dit plusieurs fois, il y a des gens qui pensent qu'on ne comprend rien à la chose. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas d'aller au cinéma et de voir un film auquel je ne comprends rien. Ça ne me gêne pas de lire un bouquin auquel je ne comprends rien, à partir du moment où le voyage est agréable.
Ouais, surtout, c'est ce qui stimule de ne pas comprendre, de faire appel un peu à ces zygomatiques, parce que si on va voir un film linéaire avec un début, un milieu, une fin, bah, voilà, là, pour le coup, on voit quelque chose de beaucoup plus stimulant et beaucoup plus...
Et puis, en plus, je trouve que ça colle parfaitement bien avec la description de cette époque.
Ah oui.
Tu l'as dit plusieurs fois, c'est le personnage principal, c'est pas tellement le doc... C'est Los Angeles.
Ah, c'est Los Angeles.
C'est Los Angeles de la fin de la période hippie, qui est en train de mourir sous les coups de, bah, des émeutes de Watts, les flics qui ont tiré dans le tas.
Ouais, exactement.
Les promoteurs immobiliers.
Les promoteurs immobiliers.
Qui vont tout massacrer. Moi, je pense que...
Des quartiers méconnaissables, puisqu'ils sont en train de tout refaire, de refaire tout Los Angeles qui est méconnaissable pour tous les habitants.
Virer les populations. Donc c'est
assez énorme. Ouais, c'est vrai que c'est le premier
personnage. C'est peut-être
un film
sur la fin d'une époque.
C'est ça.
Alors, d'autres choses que j'ai notées, tu me diras ce que tu en penses. Pynchon, lui, lorsqu'on lui parle de son roman et lorsqu'on lui parle de Los Angeles, il dit à l'époque « tout était flou ». Cru et biblique. C'est pas tout à fait ça dans le film. C'est carrément hallucinogène, le LSD est là, mais surtout surtout la fumette.
Oui et non, parce qu'il y a la fumette, effectivement, comme je disais.
Il y a les trafiquants.
Il y a une sorte d'entropie, on sent que tout part en cacahuète, hein, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment un désordre total. Mais effectivement, il y a quelques personnages, notamment le personnage de Bigfoot, qui est incarné par Josh Brolin, le flic. Bien droit, bien de ses baskets, on sent que c'est le chrétien puritain à fond, enfin en apparence du moins, et qu'il y a quand même un respect de cette valeur biblique, de cette valeur religieuse, mais finalement, est-ce que ce n'est pas que de l'apparence? Parce qu'après, on se rend compte que les personnages ne sont pas si blancs ou noirs que ça, ils sont beaucoup plus complexes en fait.
Alors, dans le roman, c'est pas moi hein, qui ai relevé ça, mais dans le roman, il y a une phrase, il y a plein de phrases hein, dans le roman. Dans les romans de Pynchon, il y a beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup de phrases. Il faut parfois beaucoup de temps pour lire une page. Donc, je lis deux phrases. Des motards chicanos, il y avait de furtifs rendez-vous coquins à midi avec de jeunes cadres ricains et blancs dont les postiches était déductible des impôts. C'est le premier chapitre du bouquin.
Ouais.
Et il y a quelqu'un qui dit, mais comment peut-on filmer ce type de phrase?
Après, c'est Paul Thomas Anderson, il a, je dirais, une maîtrise de la mise en scène qui fait qu'il sait conjuguer, et ça, forcément, il va pas montrer en citant une voix off, en utilisant une voix off, il va pas montrer ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que le dialogue ou la voix off qui va être mise en place va véritablement servir ou être à contre-courant de ce qu'il va montrer, et tout le plan en général va être une, je dirais, un pot pourri de tout ça, une illustration quasi parfaite de cet état d'esprit, de ce chapitre même. Mmh. Moi, je me suis complètement reconnu parce que j'ai vu le film avant et j'ai lu le livre après. J'ai été impressionné par l'adaptation de Paul Thomas Anderson et par l'écriture. Alors,
ouais, parce qu'il faut le faire.
Il faut sacrément le faire. Et surtout, bon, il a repris des dialogues vraiment à l'identique, hein, pour le coup. Mmh. Mais d'autres dialogues qu'il ne reprend pas, il les retranscrit visuellement. Et c'est magnifique. C'est vraiment maîtrisé. Il a 44 ans, hein, Paul Thomas Anderson. Et pour avoir une intelligence de mise en scène comme ça, c'est que voilà, il n'est pas loin du génie quand même.
Alors, je parle à nos auditeurs. Vous avez compris qu'ici, on aime Pynchon et apparemment, on aime le film. Je voudrais qu'on termine la séquence. C'est le petit jeu habituel.
Oui.
Un mot.
Oui.
Un mot.
Ah oui,
hein,
le jeu.
Un
mot.
Touffu.
Touffu, oui, absolument.
Un mot. Indéchiffrable.
Aussi. Deux mots. Un autre, peut-être.
Vas-y. Tu
oui.
en veux un autre?
Non, bah oui, aussi.
Nostalgique.
Indéniablement. Mmh. Indéniablement. Nostalgique.
Hallucinogène.
Ouais, complètement. Voilà. On nage dedans. Hein.
On nage dedans, voilà. Donc, moi, ça me choque un petit peu moins lorsque je lis les critiques et je vois qu'il y en a qui disent « j'ai rien compris de début jusqu'à la fin, on se demande ce qui se passe et tout ». Bah ouais, mais il ne faut pas lire. Dans ce cas-là, il ne faut pas lire.
C'est ça. Alors déjà, moi, je voudrais aussi revenir vite fait hein, sur les critiques négatives. Déjà, n'allez pas voir une adaptation de Pynchon. Enfin, ou alors, lisez Pynchon et voyez à quoi ça ressemble avant d'aller voir le film. Parce que
je connais des personnes qui estiment que lorsqu'il y a plus de 4 personnages dans un bouquin, c'est déjà compliqué.
C'est déjà
donc
compliqué. Là, pour le coup,
on s'en sort pas. Un tout petit truc, il y a Joaquin Phoenix là, qui dit qu'à un moment, pendant le tournage, il a fait une erreur. Au début du plan, il a un chapeau. Et puis on tourne la séquence en différents plans et à un moment il oublie de remettre le chapeau sur sa tête.
Mais il fait pas d'erreur, Joaquin Phoenix. Phoenix, le réalisateur non plus.
Donc il va voir le réalisateur, il lui dit Paul, je crois que j'ai merdé, j'ai oublié de reprendre le chapeau. Et donc Anderson, qui ne s'est rendu compte de rien, dit super. C'est ce qu'il y a de mieux. On va voir ce qu'on peut faire à partir de ça. Voilà, Inherent Vice.
Donc, de Paul Thomas Anderson.
Alors, pour le voir dans les salles de Paris ici.
Il devrait passer au ciné-club de Bourgoin-Jallieu, je l'espère, dans les jours qui vont suivre. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'ait pas été programmé pour la sortie, parce que pour le coup, c'était vraiment l'une des plus grosses sorties là, de cette année 2015. Et c'est un rendez-vous manqué, dommage.
Transition musicale avant la séquence de Carole. J'ai choisi un petit bout de musique extrait de l'album de M. John Carpenter. Ça a quand même à voir avec le cinéma.
Oui, super transition.
Le titre que j'ai choisi s'appelle Vortex. Thank you. Vortex, extrait de l'album de Monsieur John Carpenter, réalisateur, mais également compositeur et musicien. J'ai oublié de... Je voulais clore la séquence cinéma consacrée à Los Angeles, la période hippie, le cannabis et toutes ces choses-là, puis avec un hommage à un monsieur qui nous a quittés vendredi. J'en reparlerai dans les prochains champs libres. Il s'agit de M. David Allen, le fondateur de Gong et Soft Machine, celui qui a inventé les théières volantes Zero, le héros, et les Potted Pixies, ces trucs complètement hallucinés et hallucinogènes. Ils avaient enregistré un dernier album l'année dernière, je l'avais passé dans l'émission. Il était très très bon. David Allen était atteint d'un cancer et il a décidé, il y a un mois à peu près, d'arrêter le traitement. Et il paraît qu'il a rejoint justement Zero le héros, les Potted Pixies, et qu'il est parti dans la théière volante. Voilà, je vais laisser la parole à Carole.
Mais moi, ce soir, je vais plus m'intéresser à des gens qui ne fument peut-être pas ou se droguent un peu moins que d'habitude, et notamment Matthew E. White, qui 3 ans se sont écoulés depuis la parution du sublime Beginner, premier album de notre géant débonnaire. Matthew E. White, dont le talent est proportionnel à sa taille et à la longueur de ses cheveux, nous revient avec Fresh Blood, album empli de douceur et de subtilité. Dès le premier titre, un sentiment de chaleur et de bienveillance s'empare de notre être. Une soul suave accompagne la voix délicate de Mr. White. Take Care My Baby vient comme une caresse. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser séduire par cette chanson d'amour qui semble avoir toujours existé. La particularité et le génie du grand Matthew réside à marier le jazz, le funk et la soul avec une parfaite maîtrise comme le faisaient d'illustres labels autant jadis. Rappelons que l'artiste a débuté comme arrangeur et guitariste de big band de Jazz Fight the Big Bull avant de créer son propre label Space Bomb Records qui se situe entre Stax et Motown. Sur le titre Rock'n'Roll is Cold, nous avons droit à un cours sur l'essence même de la musique, en particulier les mouvements rock, rhythm and blues et gospel. De quoi sont-ils réellement composés? Quels en sont les secrets? La réponse est clairement indiquée dans le titre puisque ces 3 mouvements sont judicieusement associés pour notre plus grand plaisir et donnent le titre le plus entêtant de l'album. L'amour reste le sujet phare de cet opus, il est évoqué sous toutes ses formes, avec douceur, malice, sensualité. Matthew nous invite à croquer la pomme sur Fruit Trees, toujours sur des arrangements à tomber par terre. Mais il est une version de l'amour que l'on ose aborder, une face trop sombre pour être dénoncée, et pourtant, avec un courage, une humilité et une sensibilité désarmantes, Mr. Wright, enfant d'évangéliste, dénonce l'inceste et l'abus sexuel au sein de l'Église catholique. Holy Moly est sans aucun doute le chef-d'œuvre de cet album. La révolte et la colère de l'artiste se traduit par une section de cordes et de cuivres illustrant la gravité du propos. Le crescendo accentue la dramaturgie et nous laisse entrevoir le passage de l'ombre à la lumière avec des chœurs entonnant un « I will not fear anymore » émancipanteur. Autre sujet évoqué par notre énigmatique barbu, le suicide. C'est pas très jouasse, mais il en est question dans « Circle Round the Sun » lorsque l'artiste imagine une chanson d'amour écrite du point de vue d'une suicidée. Et dans le très touchant « Tranquility », titre composé à la mémoire de l'acteur Philip Seymour Hoffman dont la disparition a profondément marqué Matthew E. White. Non loin de son prédécesseur, quoique un poil plus mélancolique, Fresh Blood ne surprend pas mais force le respect par son exigence et sa maturité. Matthew E. White nous enveloppe de sa voix douce et bienveillante. Sans aucune prétention, il nous fait don d'un album riche d'amour, de chaleur et de sincérité. Sa générosité se manifeste par les différents arrangements emplis de grâce et de subtilité. Auditeurs de chant libre, si j'ai un conseil à vous donner, ne passez pas à côté de ce doux géant génial et ne privez pas vos délicates oreilles de ce très bel album. On écoute sur le champ le premier titre, Holy Moly.
Holy Moly, what's wrong with you? What's wrong with you? Don't you ever give me false hope. Don't you ever give a man false hope. Let's move on, man, it brings me down. Maybe I can face it another way. You drank ruin and I drank wine. And it's okay, it's okay. Are we healed in the end? Mm-mm-mm, mm-mm-mm. Or
Holy Moly, Matthew E. White. L'album s'appelle Fresh Blood.
Fresh Blood.
Le précédent s'appelait Beginner. On a bien aimé le jeu de mots.
Oui.
Hein, on avait bien aimé le disque aussi.
On avait craqué tous les deux sur le disque. Il avait fait l'objet d'ailleurs du favori le mois qui a suivi la sortie.
Pendant quelques temps. J'ai deux, trois choses que je voulais dire là, concernant ce disque. Alors, j'aime beaucoup Matthew E. White. Je pense que dans le premier album, il y avait des titres hyper intéressants. Mm. Puis il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus faibles. Là, on a l'impression que c'est un numéro, un bis. Si tu veux, un deuxième album qui serait le prolongement du premier, plus
abouti. C'est pour ça que il n'y a pas tellement de surprises sur cet album. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour le premier, parce qu'il y a eu l'effet aussi de surprise quand on découvre vraiment, c'est de la dentelle, en fait, ces arrangements. Donc, quand on écoute au casque et qu'on a toute cette petite subtilité, c'est vraiment une belle surprise, c'est un super paquet cadeau. Donc là, du coup, on sait à quoi on s'attend, mais on le découvre avec beaucoup de délectation aussi. Donc, ça reste un très bel album. C'est la continuité du premier, exactement. Il ne prend pas de risque, mais ça reste très beau.
Effectivement, je voulais dire aussi que c'est un... C'est un album d'arrangeur, avec beaucoup d'arrangements hyper travaillés. Alors, moi, il y a un seul truc qui me... Alors, je ne sais pas si ça me gêne ou pas, mais j'ai l'impression d'entendre et d'écouter un album de J.J. Cale. Je l'ai écouté 5 ou 6 fois. Il pose sa voix dans celui-ci, ce n'était pas le cas dans le premier, exactement de la même façon, une voix blanche, exactement de la même façon que J.J. Cale. Et je pense que si j'avais entendu ça à la radio sans savoir qu'il s'agissait de Matthew E. White, j'aurais pu penser que tiens, j'ai raté un album de JJ, alors que j'étais grand fan du JJ.
D'accord.
Voilà, donc je ne sais pas, ça me gêne.
Après,
ou pas.
Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, je connais moins DJ Cale que toi, je n'ai pas forcément fait ce rapport-là. Ce n'est pas un chanteur, Matthew White, c'est un arrangeur, effectivement. C'est la première fois qu'il a chanté, c'était sur Beginner. Il avait fait des effets, mais c'était plus en tant que musicien. Donc, c'est vraiment son coup d'essai. Il a une voix qui est peut-être blanche pour toi, mais pour moi, je trouve qu'elle est plus réconfortante et plus apaisante.
Ah,
Et je trouve qu'elle est caractérisée. Et je pense qu'effectivement,
c'est pas obligatoirement négatif.
Ouais,
hein,
oui.
Ce que je dis, mais voilà, parfois, j'ai l'impression d'entendre...
Il a un marqueur vocal, quand même.
Dans le titre Rock'n'Roll is Cold, c'est carrément du J.J. Cale, quoi. Alors, il y en a qui vont penser que c'est Mark Knopfler, mais bon...
Tu t'égares.
Hein, voilà. Jo, tu l'as écouté?
Oui, je l'ai écouté, j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu de mal avec la voix au début, en fait. Mais j'ai trouvé justement que le côté jazzy, en fait, globalement, collait bien. Et j'ai été un petit peu assez vite emporté, en fait, par l'album.
C'est quand même un disque à écouter. J'aime pas, moi, la musique en fond sonore, j'aime pas trop.
On loupe des choses hein, si on met ce disque en fond sonore, on loupe beaucoup de choses.
Non, il faut vraiment Mais bon, c'est vrai qu'au début, la voix fait bizarre. Moi, c'est vrai que c'est une voix qui m'a laissé perplexe au début. Puis finalement, on se laisse vraiment happer après par l'album, en fait.
Ok.
Fresh Blood.
Bon, c'est tout pour le Fresh Blood.
Okay. Tu as encore...
Alors, on a une grosse sortie quand même ce mois-ci, c'est le Noël Gallagher.
Grosse sortie. D'accord.
L'enfant terrible de la Britpop, la tête pensante des frères Gallagher, nous présente son second album, beaucoup plus pop que le précédent, et nous fait une démonstration de force 20 ans après la bombe Oasis. Noël Gallagher s'offre la tête des charts britanniques dès la sortie de Chasing Yesterday. L'homme le plus modeste de Grande-Bretagne nous régale de ses interviews rendant gloire à son génie. Alors peut-on lui donner raison ? Ayant maintes fois fait des preuves au sein du groupe Oasis en tant qu'auteur, compositeur, mélodiste de talent, Noël, la cinquantaine rayonnante, place la barre haute et montre une exigence qui le caractérise dès le premier titre. Sur Riverman, Gallagher nous fait don d'un solo guitare accompagné d'un sax Pink Floydien. Pour preuve, il a fait écouter Dark Side on the Moon and Wish You Were Here à ses musiciens pour obtenir cette influence. In the Heart of the Moment impose sa rythmique punchy ponctuée de petites trouvailles qui rendent ce titre entêtant et complètement irrésistible. Parmi les 14 titres qui composent cet album, on note quelques ballades accrocheuses dont Noël a le secret, telles que le sublime Dying of the Light ou le séduisant Where the Song Remains the Same. The Right Stuff est quant à lui une parenthèse hors du temps avec ses cuivres langoureux et sa guitare insolente. Un voyage tripant de 5 minutes, loin des sentiers battus. Bon, je ne m'aventurerai pas à éplucher l'ensemble de cet album, tant il y aurait à dire. Mauvaises langues diront que Noël est passé de petit à vieux con prétentieux et qu'il aurait mis dans cet album aussi bien des chutes de studio que des titres refusés par Liam. Mais amis auditeurs, arrêtons de baver inutilement, rappelons tout de même que les frères Gallagher ont sorti des albums qui ont marqué l'histoire du rock et ce n'est absolument pas par hasard. Alors oui, certains manqueront d'objectivité, agacés par le discours du principal intéressé, mais il faut rendre à Noël ce qui t'appartient à César. L'empereur Gallagher impose son talent et s'invite au panthéon de la Britpop. Normal, il en est l'un des pères fondateurs. Chasing Yesterday est un album réussi, et oui, le père Noël a bien raison de cultiver son melon, puisqu'il se balade avec une aisance insolente, là où bon nombre de se seraient cassés les dents, à commencer par son frère Liam avec ses beady eyes. On écoute tout de suite l'extrait The Right Stuff et on en reparle après.
Thank you.
Monsieur Noel Gallagher, c'est High Flying Birds. L'album s'appelle Chasing Yesterday. Ce titre a été choisi par Carole, The Right Stuff. Joe, tu l'as écouté ?
Je l'ai écouté plusieurs fois parce que la première écoute m'a pas convaincu en fait. Et c'est vrai qu'en le réécoutant une fois, deux fois, j'ai trouvé effectivement une plus grosse, comme disait Carole, une plus grosse exigence musicale. Et c'est vrai qu'on on perçoit des choses. Pour le coup différente et plus exigeante de la part de Gallagher. Et du coup, au bout de la troisième écoute, moi, j'ai plutôt accroché, ouais, effectivement.
Ok. Moi, je l'ai écouté cinq fois, je crois, cinq fois le soir, dans mon petit voyage en bus. Alors, j'avais écouté le premier album, je crois même l'avoir acheté, l'avoir acquis.
Oui, mais t'as pas laissé un souvenir impérissable.
Voilà.
Moi, le premier, je m'en rappelle même pas.
Comment dire ? C'est un disque qui s'écoute gentiment.
Mais ouais.
Ça laisse pas grand-chose. Alors, à ma décharge, et avant de me faire dégommer par ma co-animatrice, moi, j'ai jamais été un grand fan de Oasis. Hein. J'ai pas pu vivre les choses de la même façon que vous, les trentenaires.
Mais par rapport aux derniers Oasis, quand même, aux derniers Oasis, enfin,
alors,
ça n'a rien à voir. Quand
alors,
même.
Je suis d'accord avec toi, ouais. Joel. J'aime bien les deux premiers Oasis, ouais, le voilà. Reste pas
ouais,
trop.
Ouais, bah,
mais
ouais.
Je trouve que le premier Noel Gallagher, alors les Liam, j'en parle même pas.
Oui.
Les Liam, voilà. Premier Noel Gallagher, j'avais beaucoup d'espoir chez Gallagher parce que, à mon avis, c'est lui qui avait composé les plus beaux trucs d'Oasis. Et c'est de la pop anglaise,
oui.
Voilà. Alors. C'est Noel Gallagher. Si c'était pas Noel Gallagher, je pense qu'il n'y aurait pas tous les articles que j'ai là.
Bah forcément, ils ont quand même composé les deux plus gros albums du début des années 90. Ça reste quand même un événement, malgré avec tout ce qui sort en ce moment. Noel Gallagher a marqué l'histoire de la pop anglaise. Donc c'est comme quand Damon Albarn fait quelque chose, tout le monde en parle. Ça reste.
Ouais. Mais que ne dit-on pas la même chose d'autres artistes? On a quand même le droit de reprocher à des artistes qui ont fait des choses géniales de ne plus rien avoir à dire quelques années après.
Bien sûr, bah après, autrement, je pense qu'on ne serait plus quoi écouter tellement d'offres gigantesques.
Ah, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il y ait une offre gigantesque, c'est qu'il y a. C'est pas parce qu'on a été qu'on est encore. Non, c'est le sujet du bac. Oui, voilà, donc moi, il arrive qu'au.
C'est aussi qui parle.
Il arrive qu'au bout d'un. Ce disque, je l'écoute. Au début, il y a un titre qui accroche, et puis à la fin, j'ai l'impression de ne plus rien écouter. Je vous ai entendu dire le saxophone, c'est génial. Moi, je trouve qu'il est à côté de la plaque, le saxo, dans ce type de
musique. Pourquoi il est à côté de la plaque ?
Je trouve que c'est vraiment un truc rapporté.
Je le trouve bien senti. Je trouve que ça amène quelque chose de différent. Genre, je ne vais pas me cantonner à faire ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Et j'essaye d'apporter, d'ouvrir les champs du possible. Et voilà, d'essayer d'intégrer quelque chose de nouveau. Et ça se marrait bien. Il n'en abuse pas. Il y en a sur quelques titres, pas tous les titres.
Quelques titres.
Ça aurait été too much, effectivement, s'il avait mis du sax sur tous les morceaux. Ce n'est pas le cas. Il y en a sur deux, trois. Ça suffit. C'est bien.
Voilà, donc le nouvel album de Noel Gallagher, les auditeurs.
À chacun, franchement, c'est vraiment le truc où chacun doit se faire son propre avis.
Mais tu ne crois pas que c'est le cas de tous les
disques, de tous les
artistes ?
On va forcément être plus influençable sur certaines choses. Toi, dès qu'un Bob Dylan fait quelque chose ou un Neil Young, ça reste toujours le petit bijou. Ça sera inéluctable. Je pense que pour quelqu'un comme Noel Gallagher, il y a quand même un peu plus de distension, et il y a certaines personnes qui vont vouloir se faire son propre avis, tellement il y a de débats sur ce type d'album et d'artistes surtout.
Alors, on va passer à la suite, mais je voudrais quand même j'espère quand même que dans une émission comme Champ Libre, on soit capable de dire d'un artiste qu'on aime beaucoup, le nouvel album qu'il vient de composer, c'est vraiment pas génial.
Et alors, je te prends au mot.
Ah oui,
parce que pour le Tempest, on a eu un gros débat.
Je pense qu'on le fait souvent ici. Que l'on n'ait pas la même perception d'un disque, que l'on ne soit pas d'accord, que certains aiment et d'autres n'aiment pas, je crois que c'est le propre d'un groupe comme Oasis qui a cultivé ça pendant des années. Hein, la fameuse rivalité Blur-Oasis, voilà. Moi, je ne sais pas s'il y a grand-chose à attendre de Noel Gallagher. Dommage que notre ami Punk ne soit pas là, parce que lui dirait carrément qu'on n'avait rien à attendre d'Oasis déjà dès le départ.
Mais voilà. Noël a fait un très bon album, ça n'a pas été le cas de Liam avec Libby Eyes. Ouais. Je pense que voilà, après... C'est...
Voilà, Noel Gallagher, High Flying Bird, hein, c'est son groupe. Alors ça tombe bien parce que je voulais vous faire écouter ça. C'est le nouveau single de Blur. Je raccourcir un peu le titre de Blur, sinon on n'a même plus le temps de dire oh oh oh. Blur Go Out, c'est le titre du morceau. L'album à venir s'appelle The Magic Whip. Il est annoncé pour le mois d'avril. C'est le premier album depuis Think Tank, c'est-à-dire 12 ans. Et c'est surtout le premier album de Blur avec les membres originaux, y compris donc Graham Coxon, c'est-à-dire depuis 13, qui date de 1999.
Ça voilà. Rajeunit.
Beaucoup ne pensaient pas que Blur se reforme un jour, puisque Coxon s'était plus ou moins fait virer pour des histoires d'alcoolisme. Mmh. Voilà. Albarn a sa carrière solo. Voilà, je sais pas. Vous avez écouté ce single?
Oui, de toute façon, Blur, j'ai toujours aimé aussi. Damon Albarn, ça fait partie aussi de ces artistes qui peuvent tout faire, qui généralement le font bien. Je l'écoute, j'aimerais l'écouter, je suis très impatiente de voir le résultat. Pour moi, ça reste une valeur sûre. Après, il y a des petites rumeurs qui traînent comme quoi Noël et Albarn formeraient un duo spécifique et feraient un album. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça peut être sympa.
Ah ouais. Après avoir divorcé chacun.
Ouais, il y a une grosse rumeur qui tourne là-dessus, comme quoi ils feraient un album tous les deux. Ça serait un
fantasme de fan ou...
Non, ouais. Ce serait génial. Déjà, les voir sur scène
Romeo
tous les deux,
et
c'est
Juliette,
incroyable. Mais je suis sûr que ça peut être très constructif.
Ouais, alors ils sont peut-être dans des univers différents quand
ça
même.
Ça n'empêche pas. Au contraire, je pense qu'ils ont tous les deux quelque chose à s'apporter.
Jo, tu l'avais écouté, ce titre ?
Non, je ne l'avais pas écouté. Je viens de le découvrir là. Et bon, je pense que, comme dit Carole, très justement, c'est une valeur sûre. Donc, Blur. Mmh. Voilà, moi, c'est pareil. J'adorais Blur aussi. Ouais. J'attends ça avec impatience.
Tu as quand même écouté le disque avant de...
Ouais, mais j'écouterai.
Ouais, mais on est comme ça, nous, on était de
J'écouterai sans aucun doute.
On va dire ce que vous avez dit juste avant, quand même.
On trépigne.
Hein,
C'est comme toi avec Neil Young. On y va. On est à fond.
Ouais. Sans aucun doute, on va l'écouter. On trépigne.
Ouais.
Ouais.
Donc, on attend le Blur avec impatience.
Pour avril,
avec plein d'autres choses. Ce champ libre numéro 550 est terminé. Merci, Joe, pour la rubrique cinéma. Donc, le film, déjà, c'est...
Inherent Vice, je peux le redire encore une troisième fois. Inherent Vice de Paul Thomas Anderson.
Et puis, si vous savez lire, lire le bouquin de
Thomas Pynchon, Vice caché,
il y a eu un nouveau Thomas Pynchon depuis, qui avait été chroniqué dans Champ Libre, vous étiez là,
oui.
D'ailleurs, je crois.
Exactement.
Voilà. Alors, il faut savoir lire pour s'attaquer à Pynchon.
Oui.
Oui. si, il y en a plus d'un qui ont essayé. Et
oui.
À la page 2, ils avaient déjà arrêté. Merci, Carole, pour la rubrique galagueresque.
Merci.
Voilà. c'est un truc qu'il faut secouer ou pas ? Ah non, c'est original.
La tête en bas.
Merci, Laurent, pour la technique. Et on se sépare avec un second titre du Oriette Gloom de Off Montréal. Celui-ci s'appelle Last Night at the Gen Hotel. C'était Champ Libre et on se retrouve la semaine prochaine.
Bonne soirée.
As usual, I sped from anti-anxiety meds and the old gang grasping for air that's not there. Seeking out my own authentic season in hell. Though it doesn't feel quite as pompous, at least not as I can, at least not. I am free and almost alone.